France Inter. Bonsoir Éric Delvaux.
Bonsoir Christelle, bonsoir à tous. C'est l'image du jour. Donald Trump au tribunal à New York pour l'ouverture de son procès. Accusé d'avoir maquillé ses comptes de campagne pour acheter le silence d'une ancienne star du X, l'ex-président a comparé son procès à une persécution politique. Le pays est mené par un homme incompétent qui s'est énormément impliqué dans cette affaire. C'est une attaque contre un opposant politique, une attaque contre l'Amérique, estime Donald Trump. Nous serons en direct à New York en début de journal. Nous irons également à Tel Aviv où la population tente de se remettre de la crainte après l'attaque iranienne de samedi. À la une également ce soir à Lille en France. Plusieurs élus locaux réclament l'annulation de la conférence de Jean-Luc Mélenchon sur l'actualité de la Palestine. C'est notamment le logo de l'affiche qui pose problème, nous verrons pourquoi. Question ce soir également sur l'impact économique des Jeux Olympiques. Emmanuel Macron dit qu'ils seront rentables. Eh bien, nous verrons dans quelle mesure avec Fabien Cazot, le chef du service économique de France Inter. Le nombre de morts sur les routes a augmenté de près d'un tiers en un an. Nous tenterons de comprendre pourquoi avec William Delesseux. Enfin, la collection des livres ayant appartenu à Léopold Sédar Senghor devait être vendue demain à l'hôtel des ventes de Caen. Vente suspendue car l'État sénégalais vient de faire une proposition pour acquérir l'ensemble des livres. Et puis je vous rappelle, chers auditeurs, toutes les questions ce soir que vous vous posez sur la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Le thème de votre téléphone sonne, Christelle, dans une vingtaine de minutes, 01 45 24 7000 ou bien sur WhatsApp.
France Inter.
Donald Trump avait tout fait pour repousser ce procès après l'élection présidentielle de novembre.
Oui, mais peine perdue, il est devenu aujourd'hui Donald Trump le premier ex-président américain à faire face à la justice pénale de son pays. Ouverture du procès donc aujourd'hui à New York. Donald Trump est accusé d'avoir maquillé ses comptes de campagne en 2016 pour acheter le silence d'une ancienne star du porno, Stormy Daniels, qui affirme avoir eu une liaison avec lui. Bonsoir Sébastien Paour.
Bonsoir à tous.
En direct de New York, devant la cour pénale de Manhattan. Et donc, sans surprise, ce matin pour vous, Donald Trump s'est immédiatement présenté en victime.
Oui, c'est le registre classique trumpiste auquel il nous a habitués depuis qu'il a quitté la Maison Blanche. Son expression fétiche, c'est chasse aux sorcières. Il ne l'a pas utilisé tout à l'heure, mais sur le fond, c'est la même chose. S'il est ici au tribunal, s'il est sous le coup de 91 chefs d'inculpation dans 4 dossiers, c'est à cause du président Biden, son adversaire démocrate et du département de la justice dont il tire les ficelles. Tout ça est évidemment orchestré contre lui depuis Washington et depuis la Maison Blanche. C'est une persécution politique, a-t-il dit tout à l'heure à son arrivée au tribunal. On en a entendu un bout avec vous. Une affaire infondée. Il a aussi dit qu'il était fier d'être ici, qu'il était là pour son pays, que son procès était une attaque contre l'Amérique.
Et cette première journée, Sébastien, elle est consacrée à la sélection des jurés et leurs suppléants pour être certains de leur neutralité politique.
Oui, c'est ça. Il faut trouver 12 femmes et hommes, plus 6 suppléants, aussi neutres que possible, en effet. Et ça peut durer plusieurs jours parce que New York, évidemment, est très majoritairement démocrate. Manhattan a voté à 85% pour Biden en 2020. Il faut donc s'assurer que les jurés potentiels ne sont pas partisans et qu'ils n'ont jamais adhéré d'une manière ou d'une autre aux idées du milliardaire républicain. Il faut, par exemple, qu'ils ne soient pas abonnés à ses comptes sur les réseaux sociaux ou qu'ils n'aient pas d'affinité avec les conspirationnistes de QAnon, par exemple. Ça peut être long, donc, une voire 2 semaines. C'est pour ça qu'ils sont plus de 500 à avoir été convoqués depuis ce matin, ici, au 15e étage du tribunal, salle d'audience numéro 59. C'est là que Trump va passer 4 jours par semaine désormais pendant un mois et demi à 2 mois, avec une pause les mercredis et les week-ends pour qu'il puisse continuer à faire campagne.
Et le verdict devrait être rendu à l'unanimité et 3 autres procès attendent Donald Trump. C'était Sébastien Paour en direct de Manhattan. Encore une agression au couteau en Australie, cette fois dans une église de la banlieue de Sydney. 4 personnes ont été blessées, leur vie n'est pas en danger. Un garçon de 15 ans a été arrêté. Cette nouvelle attaque a provoqué la colère de quelques Australiens qui s'en sont pris aux forces de l'ordre. Au moins 2 policiers ont été hospitalisés. Ces faits arrivent 2 jours après une autre agression qui a fait 6 morts à Sydney. L'agresseur de samedi semble avoir ciblé les femmes en priorité. Benjamin Netanyahou va-t-il lancer une riposte après l'attaque de missiles et de drones iraniens Parisien samedi soir. La question est au cœur du nouveau cabinet de guerre convoqué en ce moment et depuis le début de l'après-midi par le Premier ministre israélien. La précédente réunion hier n'avait débouché sur rien.
Les habitants d'Israël étaient ce lundi plutôt soulagés après ce week-end d'attaques iraniennes.
Oui, mais la menace n'a pas disparu pour autant et ces voyageurs qu'ont rencontrés nos envoyés spéciaux à l'aéroport Ben-Gourion de Tel Aviv en ont bien conscience. Reportage donc d'Ajra Mohamed, Sandrine Malon avec Alexandra Vardy.
Quelques vols sont encore annulés ou retardés à l'aéroport, mais pas celui de Raya. Elle pousse ses valises direction la Géorgie pour quelques jours de vacances et pour souffler après ce week-end de tension avec l'Iran. Un bras de fer aérien remporté haut la main par son pays, assure-t-elle fièrement.
Oui, on se sent en sécurité. On a totalement confiance en notre armée. On sait qu'elle est forte. C'est la meilleure au monde.
Mais pour Merav, il faut aussi dire merci aux alliés occidentaux d'Israël qui ont intercepté des tirs.
Ça fait vraiment du bien de voir cette large coalition nous soutenir. On en a vraiment besoin maintenant. Bravo aux Dômes de Fer. Mais sans cette alliance, ça n'aurait pas été pareil.
Finalement, beaucoup se sentent plus en danger en quittant leur pays, à l'image d'Itaï, en route pour Amsterdam avec sa femme et ses deux filles.
Oui, bien sûr, on ne va pas porter de signes distinctifs, de t-shirts avec des mots en hébreu dessus. On a dit aux enfants de ne pas parler trop fort. Les gens peuvent comprendre certains mots en hébreu, comme « shalom ». On va faire profil bas.
Et quand on les interroge sur une éventuelle riposte à lancer contre les Iraniens, tous disent qu'il le faudra, mais pas maintenant. La priorité reste la même pour eux, la libération des otages retenus à Gaza.
Voilà pour ce reportage d'Ajra Mohamed à Tel Aviv. Emmanuel Macron devait s'entretenir aujourd'hui avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Et si la crise au Proche-Orient devait se dégrader encore un peu plus, eh bien cela aurait un impact économique lourd sur la planète. C'est la crainte de Bruno Le Maire. Le ministre français de l'économie redoute un impact terrible, dit-il, sur la croissance. En France, plusieurs élus du Nord réclament l'annulation d'une conférence de Jean-Luc Mélenchon prévue jeudi prochain à Lille. Une conférence sur l'actualité en Palestine, pour reprendre l'intitulé de l'affiche, en présence de la candidate insoumise aux élections européennes, Rima Hassan. Eh bien, ce que dénoncent les élus locaux, c'est-à-dire la députée Renaissance du Nord, Violette Spilbou, le député RN du Nord, Sébastien Chenu, et le président LR de la région des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, c'est le logo apposé en bas de l'affiche, une carte d'Israël colorée en rouge sur fond vert, où il est écrit « Libre Palestine ». Bonsoir Laurence Perron.
Bonsoir.
Et voilà donc LFI accusée tout simplement de vouloir supprimer Israël.
Oui, alors on est clairement là, hein, dans une de ces répliques sismiques de l'attaque du 7 octobre que LFI n'a pas immédiatement qualifié de terroriste. Le contexte politique, les élections européennes exacerbent encore les tensions. Le RN voit dans le logo de cette association Libre Palestine une négation de l'État d'Israël. La défense d'un État palestinien gangréné par le Hamas serait l'aveu d'un antisémitisme dont LFI et Jean-Luc Mélenchon seraient les porte-drapeaux en France. Aurélien Lecoq, co-animateur des Jeunes LFI et candidat aux élections européennes.
Le Rassemblement National, ce sont les pires hypocrites de la lutte contre l'antisémitisme. C'est un parti qui possède encore aujourd'hui dans ses rangs deux véritables antisémites, un libraire négationniste qui fait partie de son groupe parlementaire. Du côté de la France Insoumise, on est serein, cette conférence, elle aura lieu, personne ne nous empêchera de nous exprimer.
Et pas question pour le patron des Hauts-de-France, le LR Xavier Bertrand.
Ça ne doit pas se tenir compte tenu de l'organisateur, compte tenu de la façon dont avec le logo on annonce la couleur. C'est nier l'existence même d'Israël, c'est nier le droit international. Et donc avec le risque également qu'il y ait des propos antisémites, mieux vaut prévenir que guérir.
La députée Renaissance du Nord, Violette Spilbout, estime, elle, que les universités n'ont pas vocation à accueillir ce qu'elle considère être un meeting politique.
C'était très important de signaler au président de l'Université de Lille que ce n'est pas au mouvement LFI de s'approprier l'Université de Lille, puisqu'on n'est pas à la première conférence de LFI à l'intérieur des locaux universitaires, et uniquement ce parti-là.
Pour l'heure, le président de l'université ne souhaite pas nourrir la polémique. À cette heure, la conférence est donc maintenue.
Laurence Perron, service politique de France Inter. L'homme d'affaires Daniel Kretinsky chercherait à vendre l'hebdomadaire Marianne, qui fait partie de son groupe, mais dont la ligne éditoriale, qualifiée de souverainiste radicale, ne convient pas à ce pro-européen. C'est le site d'information La Lettre qui affirme que le milliardaire tchèque chercherait à vendre Marianne, mais l'information n'est pas confirmée par le groupe. Pour Emmanuel Macron, les Jeux Olympiques de Paris seront rentables. Les JO vont même créer de l'emploi, a-t-il dit ce matin, en avançant le chiffre de 6 milliards d'investissements. Bonsoir Fabien Cazot.
Bonsoir.
Le chef de l'État en est persuadé, ces 6 milliards d'investissements auront un impact positif sur l'économie française?
Eh bien, la somme correspond au total des investissements réalisés par les entreprises dans le cadre de la préparation des Jeux Olympiques. Cette somme s'ajoute aux 2 milliards déjà investis par l'État, sans prendre en compte les retombées qui découleront des Jeux ensuite, en termes de consommation, de transport ou d'activité hôtelière notamment. À ce stade, les 6 milliards évoqués par Emmanuel Macron incluent le montant des investissements réalisés sur les chantiers, le village des athlètes ou la restauration du Grand Palais à Paris, pour citer les plus emblématiques, mais aussi les emplois dans le secteur privé, des salaires, mais aussi de l'impôt et des cotisations sociales qui vont rentrer dans les caisses de l'État, se réjouit-on à l'Élysée, où on estime à 2000 le nombre d'entreprises mobilisées sur les JO, originaires de 85 départements français. 1900 contrats d'insertion sur des chantiers ont été signés dans le seul département de Seine-Saint-Denis. Au total, 180 000 personnes ont pour l'instant, directement ou indirectement, participé à la préparation des JO.
Pour répondre aux difficultés de recrutement durant les JO, un décret est paru aujourd'hui pour autoriser les agents de la fonction publique à cumuler leur emploi avec des activités de sécurité privée pendant les JO, donc du 26 juillet jusqu'au 8 septembre. La flamme olympique sera allumée demain sur le site d'Olympie en Grèce. L'ancienne nageuse française Laure Manoudou sera la première à transporter la flamme après moult relais. Son arrivée en France est prévue le 8 mai à Marseille.
Et c'était il y a un an jour pour jour, le début de la guerre au Soudan.
Oui, une guerre oubliée qui fait pourtant des milliers de morts et qui a provoqué le déplacement de plus de 8 millions de personnes. Et pour ne plus laisser cette région du monde à la dérive, eh bien Paris organisait aujourd'hui une conférence internationale pour le Soudan et les pays voisins. Bonsoir Gwendol Lavina.
Bonsoir.
Cette réunion à Paris a aussi récolté des fonds et cherché des solutions pour mettre fin à cette guerre.
À la clôture de l'événement, le président Emmanuel Macron a d'ailleurs rappelé la souffrance du peuple soudanais, celui qui a fui et celui qui reste pris en tenaille entre l'armée régulière du général Al-Bourhan et les forces paramilitaires du général Hamdan Daglo d'Yemeti. Au début de la journée, seuls 5% du financement nécessaire pour aider les Soudanais et les pays voisins était assuré selon l'ONU. Une profonde satisfaction s'exprime donc à l'annonce par Emmanuel Macron des fonds promis par les participants.
Aujourd'hui, d'importants moyens ont été mobilisés grâce à vous et au total, nous pouvons annoncer que plus de 2 milliards d'euros seront mobilisés en faveur des femmes et des hommes du Soudan.
La France, elle, participera à hauteur de 110 millions d'euros pour une aide réclamée de longue date par les organisations toujours actives sur le terrain. Clémentine Quetta, représentante spéciale adjointe de l'ONU pour le Soudan.
Les fonds que vous vous engagez à débloquer nous aideront à sauver des vies, nourrir les enfants sur le point de mourir, fournir des médicaments aux hôpitaux et soutenir les familles déplacées tant que la guerre fera rage.
Et une déclaration commune adoptée à l'issue des discussions appelle aussi tous les acteurs régionaux et internationaux à soutenir sans réserve une initiative de paix.
Voilà, je retiens, Gwendal Lavina, que 2 milliards d'euros sont donc promis pour le Soudan. Tesla confirme qu'il va supprimer plus de 10% de ses effectifs mondiaux. Le constructeur automobile est confronté à une faible demande pour ses véhicules électriques sur un marché très concurrentiel. Le nombre de morts en France, le nombre de morts sur les routes, il a augmenté de 31%. En un an. Les jeunes de 18 à 24 ans sur les réseaux secondaires sont les premières victimes. Un mois de mars particulièrement endeuillé, commente la sécurité routière, qui ne fournit pas d'explication précise à cette hausse. Bonsoir William Delesseux.
Bonsoir Eric.
Eh bien vous avez cherché quelques explications.
Oui, avec ce constat, il y a eu au mois de mars 254 morts sur les routes en métropole, soit 60 tués de plus que l'an dernier. Le nombre de blessés graves est en hausse de 10% en moyenne. Lecture et analyse d'Anne Lavaux, la déléguée général de l'association Prévention Routière.
Ça nous démontre que les accidents sont plus graves puisqu'ils génèrent plus de tués et qu'en général, Le facteur aggravant de toutes les autres causes de mortalité, c'est la vitesse.
La vitesse, un facteur possible. Depuis le 1er janvier, les excès en dessous de 5 km/h n'entraînent plus de retrait de points sur le permis. De quoi débrider les comportements de certains sur la route pour Anne Lavaux.
Les Français se sont sentis finalement quelque part un peu autorisés à rouler un petit peu plus vite, à peut-être régler leur limiteur de vitesse 5 km/h au-dessus, en se disant « bon, finalement, 5 km/h, c'est rien ». Mais en réalité, en termes de sécurité routière, on sait très bien que ça a des conséquences qui sont très importantes. La preuve, c'est que quand on était passé du 90 au 80 km/h, les projections de gains de vie, c'était de 400 vies par an.
Et l'association appelle à réinterroger cette mesure de clémence pour ce type d'excès de vitesse. La sécurité routière ne souhaite pas établir de corrélation et rappelle que les accidents ont toujours plusieurs facteurs.
William Delesseux.
Le gouvernement annonce un plan national contre les scolytes.
Oui, alors j'ai cherché le scolyte. Oui. Il appartient à la sous-famille des insectes coléoptères et il rend les arbres malades. Mm-hmm. Ce parasite prospère avec le réchauffement climatique. Il détruit surtout les résineux et donc il fait de gros dégâts dans les forêts des épicéa en France, à commencer par la région Grand Est. C'est d'ailleurs dans les Vosges, aujourd'hui, que le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, a annoncé son plan. Et le constat du ministre sur l'ensemble des essences d'arbres est assez inquiétante.
On a la cartographie de ce que sera théoriquement la dispersion entre guillemets des essences en France dans 50 ans. On sait que le hêtre va plutôt disparaître. On sait que le châtaignier est en grand danger. On sait que le frêne, pour des raisons de maladie, va probablement disparaître. On sait que certaines essences de chêne résistent et d'autres moins. Donc tout ça, on le sait. Et puis, il y a des choses qu'on ne sait pas, c'est-à-dire qu'il y a des endroits avec les mêmes essences, ça résiste mieux que d'autres, sans que la génétique soit différente. Donc là, il y a du travail de recherche, mais c'est normal qu'on fasse du travail de recherche. Mais on sait quoi planter aujourd'hui, d'ores et déjà, on sait quoi planter, et on sait surtout ce qu'il ne faut plus planter.
Trois jours après les obsèques de l'écrivaine Maryse Condé, un hommage national lui a été rendu cet après-midi à la BNF, la Bibliothèque Nationale de France à Paris. Hommage présidé par Emmanuel Macron. Il a salué en Maryse Condé une conscience caribéenne, européenne, africaine et pour finir, universelle. Elle était prévue demain à l'hôtel des ventes de Caen, la mise aux enchères des livres ayant appartenu à Léopold Sédar Senghor. Eh bien, cette vente est suspendue pour 15 jours, car l'État sénégalais a déposé une proposition de rachat de l'ensemble de la bibliothèque de l'ancien président sénégalais. Un retournement de situation qui n'étonne guère Jean Rivola. Il est commissaire-priseur à l'hôtel des ventes de Caen. Car les ouvrages de cette collection Senghor sont parfois très rares.
Vous retrouvez par exemple un très beau livre de Jacques Prévert qui a fait un petit dessin au feutre d'une jolie fleur pour Léopold Senghor. Vous avez Aragon qui a mis une dédicace, a posé une dédicace en lui disant « Cher Léopold, vous m'aviez promis des poèmes ». Alors les a-t-il reçus ? L'histoire ne le dit pas. Mais vous avez également un livre de François Mitterrand, plus plein d'autres ouvrages d'écrivains malgaches, chantillais, martiniquais, africains, qui souhaitaient rendre et adresser leur propre littérature à Léopold Senghor. Voilà, mais c'est des ouvrages qui portent déjà grand intérêt vis-à-vis du public et surtout des amateurs de l'œuvre de Léopold Senghor. Sans doute plusieurs milliers d'euros pour un seul ouvrage. Donc la vente est suspendue pour 15 jours et ben, nous espérons voilà, que ces discussions vont pouvoir aboutir quand un terrain d'entente aura été trouvé sur les conditions financières, bien évidemment, de cette vente.
Voilà, le commissaire priseur de l'hôtel des ventes de Caen au micro de Louis Fontaine de France Bleu Normandie et peut-être l'occasion, Christelle, de lire ou relire les poèmes, par exemple, de Léopold Sédar Senghor.
Je sais ce que vous allez faire ce soir, donc merci Eric. À demain. La météo à suivre.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Véhicules électriques, hybrides ou thermiques. Devis et rendez-vous en ligne, tout simplement, sur Euromaster.fr.
Sébastien Léas, la pluie va balayer le pays par le nord demain.
Oui, une perturbation apportant de la pluie avec beaucoup de vent sur son passage s'est engouffrée par le nord-ouest et continue sa traversée du pays en se dirigeant vers le Grand Est et le Centre-Val de Loire ce soir, puis en se propageant vers les plaines du sud-ouest, le Massif central et la Franche-Comté cette nuit. Demain matin, on retrouvera plus que des résidus de cette perturbation qui lâcheront encore quelques pluies entre les Pyrénées et Auvergne-Rhône-Alpes. Au nord de la Seine et sur le quart nord-est, mais aussi entre les côtes aquitaines et Midi-Pyrénées, un temps capricieux prendra le relais demain avec avec de bonnes averses localement orageuses. Un peu de grésil est également possible au nord de la Seine. Le risque d'averse sera moins marqué en allant vers le nord-ouest et les éclaircies seront aussi de plus en plus franches. Le ciel sera encore plus dégagé sur les régions de la Méditerranée, mais c'est au prix d'un renforcement notable du vent. Les rafales dépasseront 100-120 km/h sur les caps exposés de la Corse et 90 km/h dans les domaines du Mistral et de la Tramontane.
Et il va faire de plus en plus frais.
Oui, la baisse des températures va se poursuivre et demain, les maximales seront quasiment partout sous les valeurs de saison, à l'exception des régions méditerranéennes. On prévoit 23 degrés à Antibes et à Léria, 19 degrés à Perpignan et Nîmes et 18 degrés à Marseille, alors qu'il fera 15 degrés à Biarritz, La Rochelle, Montauban et Niort, 14 degrés à Quimper, Angers, Clermont-Ferrand et Paris, 13 degrés pour Grenoble et pour Caen, 11 degrés à Besançon, Nancy et Amiens et 10 degrés à Dunkerque. Ce rafraîchissement va aussi permettre de retrouver quelques chutes de neige des 1000 mètres d'altitude entre les Vosges, le Jura et les Savoies.
Merci Sébastien, à demain.